Si vous voulez bien, je vais commencer par essayer de répondre à une question qui revient sans cesse et qui m'est encore revenue deux fois cette semaine et qui touche précisément au statut de la Bible. Nous avons un présupposé qui est que la Bible raconte les choses comme nous les raconterions aujourd'hui. C'est-à-dire comme nous imaginons que les choses se sont faites. Or, pour cela, nous n'avons pas besoin du tout de la Bible. Nous avons besoin éventuellement de chroniques qui ont été écrites, semble-t-il, à certaines époques dans l'histoire d'Israël et qui le sont constamment. Mais la Bible ne raconte pas cela. Ça ne veut pas dire que les choses qui apparaissent dans la Bible ne se sont pas produites, mais elles ne le racontent pas de la manière dont elles se sont produites. Et la question qui revient sans cesse, c'est que depuis le début, pratiquement depuis l'Exode, on nous parle constamment des 12 tribus d'Israël. Or, effectivement, ces tribus, bon, ont existé à ce moment-là, si vous voulez, en germe, mais elles n'existaient pas encore comme ce qu'on a appelé le système des 12 tribus d'Israël, ce système ayant existé probablement à l'époque de Salomon plutôt même que David, même si elles sont mises sur le compte de David, si leur institution est mise sur le compte de David, mais qu'elle date surtout de l'époque de Josias, 622 avant Jésus-Christ, réforme que l'on a appelée la réforme deutéronomique, au moment du prophète Jérémie. Alors, comprendre le livre qui ne dit pas exactement ce qui s'est passé, parce que ce n'est pas son but de dire exactement, je souligne le terme, exactement ce qui s'est passé. Le but de la Bible, et cela vaut et pour l'Ancien et relativement aussi pour le Nouveau Testament, la Bible nous raconte une expérience intérieure. Et c'est pourquoi elle est importante et qu'elle vit toujours aujourd'hui. Ce n'est pas seulement un livre historique. Je vais prendre une comparaison qui, je crois, est très significative. Beaucoup d'entre vous, peut-être tous et toutes, vous avez vu le film « Des hommes et des dieux » qui raconte une histoire réelle qui s'est passée, l'histoire du martyr des moines de Tibérine. Cela s'est passé. Et nous avons des témoins, nous avons des écrits, nous avons des témoins qui ont raconté la chose telle qu'ils l'ont vécue, je dis bien telle qu'ils l'ont vécue. Et de cette réalité qui s'est passée, on a fait un film. Ah, on a fait une expression de ce qui s'était passé. Mais ce film n'a pas été joué là où les choses se sont passées, au Maroc et pas en Algérie, dans un autre endroit, par d'autres personnages qui ont essayé de se remplir intérieurement de ce qui s'était passé. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire en faisant le film ? C'est nous dire vraiment ce qui s'est passé. Pas exactement, vous voyez la différence. Nous dire la vérité présente dans ce qui s'est vécu à l'époque, dans un moyen d'expression qui nous permette de non pas de revivre ce qui s'était passé, ça n'a pas été tourné au moment même, mais de découvrir la réalité profonde de ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, on ne sait pas très bien et on ne veut pas savoir comment ces moines ont été torturés ou comment ils sont morts. Eh bien, la Bible fait quelque chose de semblable. Elle nous dit vraiment ce qui s'est passé, mais pas dans les termes exacts. Parce que elle nous parle pour des gens qui n'ont pas vécu cela et qui, se le racontant, l'ont vécu d'une manière intérieure, pas extérieurement. Alors, quel est précisément le caractère inspiré de la Bible ? L'inspiration ne nous dit pas exactement ce qui s'est passé. L'inspiration nous pénètre intérieurement de l'esprit inspiré, Esprit Saint, de l'esprit dans lequel les choses ont été vécues dans une expérience. Et justement, le propre de la Bible, c'est de nous donner une expérience millénaire, une expérience qui traverse le temps et qui s'enrichit constamment au fur et à mesure que les livres qui sont disparates en fait, c'est toute une bibliothèque, que les livres ont été composés. Alors voyez, c'est pour ça qu'il y a un rapport à faire et à bien comprendre, un rapport entre l'histoire telle que nous la percevons aujourd'hui, c'est-à-dire les événements exacts, et la manière dont les choses sont racontées. Et justement, la manière dont les choses sont racontées, ce n'est pas de nous donner les détails, ce n'est même pas de nous donner les dates, car les dates sont toujours approximatives. Ce n'est pas de nous donner des chiffres, les chiffres sont toujours symboliques dans la Bible. C'est de nous donner la trace d'une expérience que nous pouvons revivre. Et c'est précisément ce qui s'est passé. Nous avons des tribus qui sont venues à des moments différents, qui ont trouvé un lieu au milieu de populations qui existaient déjà, des Cananéens, et qui ont essayé de vivre et de survivre aux endroits qui leur étaient laissés, ou éventuellement aux endroits qu'ils ont disputés à d'autres. Donc il y a eu des pactes, il y a eu des phénomènes d'hospitalité, il y a eu des bagarres, il y a eu peut-être même des guerres, des échauffourées. Mais à travers le souvenir de ces réalités-là, je dis bien un souvenir vivant, puisqu'il s'est raconté, bien, à travers cela, ces différentes tribus se sont mises ensemble pour se défendre contre les ennemis de l'extérieur et pour être forts intérieurement. Ils se sont mis ensemble et en se racontant les uns aux autres les histoires de leur propre tribu, finalement, leur mémoire est devenue une, s'est unifiée, et a pris à la fois des légendes, comme on se racontait les choses, à la fois des traits exacts, et lorsque vous trouvez des noms de villes ou des noms de personnes, vous vous dites, il y a quand même là derrière quelque chose d'important que la mémoire a conservé, et de façon probablement exacte. Eh bien, à travers tout cela, on va vous raconter l'histoire d'une expérience de Dieu que vous pouvez faire à votre tour, dans la mesure où vous pourrez actualiser, c'est un terme qu'on emploie aujourd'hui, actualiser ces textes. Vous vous souvenez enfin peut-être, d'un film qui est passé, qui s'intitulait « À la recherche d'Abraham ». Et c'était un reporter américain, probablement d'ascendance arabe, car il connaissait bien l'arabe, et qui s'est dit « Il faut que je sache que, que j'en ai le cœur né. Est-ce qu'Abraham a existé ?» Et il a fait une enquête énorme. Il est allé évidemment à Hébron, puisqu'il y a une tombe d'Abraham. Et là, évidemment, les gens du peuple, qu'ils soient arabes, musulmans, chrétiens ou juifs, qui l'interrogeaient, bien évidemment, puisqu'il y a sa tombe est parmi nous. Donc il a existé. Et puis, il y avait quand même des doutes. Ça ne le satisfaisait pas tout à fait. Il a fait le tour d'université et d'historien, historien du Moyen-Orient ancien. Et il interrogeait les gens. Le savant lui dit, bien sûr que non, Abraham n'a pas existé, hein, évidemment. C'est de la légende. Et après avoir donc enquêté un peu partout, en Europe et en Amérique, on lui conseille d'aller voir un vieux rabbin. Et il va voir finalement ce vieux rabbin, juif, donc en Amérique, et lui demande comme ça, immédiatement, « Je voudrais savoir si Abraham a existé. »« Mais bien sûr, lui répond le rabbin, c'est moi. » Ça, c'est la vraie réponse. L'Abraham que vous avez dans le livre, c'est chacun d'entre nous. La Sarah que vous avez dans le livre, c'est chacune d'entre nous. Ça veut dire que ce texte nous dit une expérience qui, parce qu'elle est profonde, parce qu'elle est une expérience de Dieu, dépasse les siècles. Et donc toute la chronologie même, parce qu'on s'est cassé la tête, il y a des tas de livres sur la chronologie des rois d'Israël, eh bien cette chronologie, il est impossible de la donner avec exactitude. Parce que c'est la troisième année ou la sixième année du règne d'un autre roi, etc. Et roi du nord, roi du sud, c'est un mélange et chacun a sa petite théorie. Mais c'est important de découvrir la relativité de nos réalités extérieures, de paramètres du temps, paramètres de l'espace, pour découvrir qu'il y a une profondeur d'expérience qui est, elle, en quelque sorte universelle et qui dépasse le temps et l'espace. Alors voyez, quand je dis que les 12 tribus n'existaient pas en tant que telles, en tout cas, au moment ni de l'Exode, ni du livre de Josué, ni du livre des Juges, je veux dire que historiquement, au sens moderne du terme, elles n'étaient pas encore des tribus fédéralisées, dirions-nous aujourd'hui, qui forment une unité. Mais l'expérience de Dieu que commençaient à faire ces tribus et qui allait un jour se découvrir comme étant un peuple, ça existait déjà en germe. On ne peut pas dire qu'un petit enfant est et devient ingénieur. Mais quand je sais qu'il a vécu et qu'il est devenu ingénieur et qu'il a eu une place importante dans l'histoire des hommes, je peux découvrir déjà que cette ingéniosité de l'enfant existait déjà dès le sein maternel. Et donc ça a une vérité profonde. Mais il faut bien découvrir ce que nous dit la Bible et ce qu'elle ne nous dit pas. Et quand on nous parle d'une ville de Jéricho qui, archéologiquement parlant, semble ne pas avoir existé à quelle époque, puisque les tribus ne sont pas entrées comme une armée, hein, une fois pour toutes, en Canaan, mais petit à petit, ça a pris 200, 300 ans à peu près, pour que ces tribus entrent en Canaan, eh bien, Jéricho, on ne peut pas dire archéologiquement qu'elle existait comme ville. Pourtant, c'est une ville de 7000 ans avant Jésus-Christ, une des plus vieilles villes du monde. Mais, de mémoire d'homme, quand on vient de l'Est, on doit passer par Jéricho. Et voilà que Jéricho devient une réalité symbolique, parce qu'elle a existé, parce que c'est une vieille ville. Donc tout n'est pas invention, mais c'est ce qu'on appelle parfois une fiction théologique. C'est-à-dire que là, l'importance ou la réalité profonde est théologique, mais sur le plan de l'apparence, de l'histoire, elle ne l'est pas. Alors voyez, nous avons à la fin du livre de Josué, hein, j'en ai parlé, vous avez une assemblée des 12 tribus à Sichem. À l'époque de Josué, bien sûr, ce n'était pas possible. Mais Sichem est devenu, après le Silo, Silo c'est le premier temple, hein, de l'Arche d'Alliance, le premier temple après le passage du Jourdain. Et donc là, il y a eu un premier temple avec la réserve de l'Arche d'Alliance. Mais Sichem, qui est plus au nord, qui est en Samarie, hein, Sichem est devenu un centre de quelques tribus du nord. Et donc, il a raison, même si ce n'est pas exactement, il a raison de dire qu'il y a une assemblée à Sichem. Pourquoi ? Parce que cette assemblée nous dit quelque chose d'important, qu'il y a eu un mouvement, le mouvement de Josué, le mouvement de quelques tribus qui avaient été récemment en Égypte, qui étaient sorties autour des Joséphides, hein, Joseph c'est celui qui a été en Égypte, autour des Joséphides, et qui se sont réunis à Sichem, et qui ont fait profession de foi dans le Seigneur. Mon père était un Araméen errant. Dieu nous a pris, là où nous étions, pour faire de nous un peuple. Ça, c'est vrai. Ça n'a pas l'exactitude extérieure, mais c'est vrai. C'est vrai que le peuple d'Israël est peuple, non pas par une confédération politique ou sociale, mais parce qu'il y a une intention divine qui a été reconnue dans cette unité. Et précisément, l'histoire que nous avons survolée, bien sûr, à l'époque de Josué, elle est importante dans un certain nombre de points. Qu'il y ait eu un cadastre et une répartition des tribus, pardon, c'est important. Mais ce cadastre a été établi beaucoup plus tard. Mais les germes étaient déjà présents. Qu'il y a eu une entrée des tribus, qu'on va appeler Israël, hein, dans le pays, c'est vrai. Mais ça a pris du temps. Et chacune des tribus a ses souvenirs personnels. Et ces souvenirs ont été mis ensemble dans ce qu'on a appelé l'époque des juges. Le juge étant un protecteur du peuple. Quelqu'un qui va essayer, hein, de prendre le j'aime pas de dire le pouvoir, en tout cas une autorité, pour sauver le peuple d'une situation difficile. Ça a existé. Et quelques légendes, légendes de Samson, légendes de Barak et Déborah, hein, quelques légendes ont été reprises, qui ont un fondement dans l'histoire. La légende étant toujours une approximation populaire de la vérité. Approximation populaire. Mais ça frappe l'imagination. Et c'est ce que nous avons ici. Maintenant, voilà, à la fin du livre des juges, nous avons deux petites histoires un peu étranges. Hein, cette histoire de la concubine du Lévite, là, qui a été coupée en morceaux, hein, et les Benjaminites, qu'on a supprimés, il a fallu leur trouver des femmes, hein, et on a été chercher des femmes, après avoir supprimé les mâles. Nous avons deux légendes à ce sujet. Évidemment, les exégètes se sont penchés sur tous ces textes, se sont demandé d'où ils venaient, et il y a eu un travail énorme qui s'est fait à ce sujet. Et ce travail est intéressant, mais il n'est pas essentiel. J'en dis quelque chose dans le syllabus, et je cite en tout cas un certain nombre de livres qui en parlent, mais ce que j'aimerais que nous comprenions, qu'il nous reste de cette histoire, c'est que c'est notre propre histoire, celle de notre propre monde, mais racontée, hein, à une époque et dans un milieu, dans une vie différente de la nôtre. Mais en même temps, que nous ayons une perception, comme nous le faisons tout naturellement aujourd'hui dans des films. Dans les films, il y a toujours à la fois de la rétrospective et de la prospective. On nous dit des choses qu'il faut comprendre pour comprendre le film. Hein, c'est ce qu'on appelle la remontée en arrière, analepse, ou bien la prolepse. On va plus loin, on vous dit déjà quelque chose, un événement ou un détail intéressant. Et ces images, ce va-et-vient, nous le faisons naturellement dans un film. Ben, la Bible le fait déjà. Il ne faut pas nous en étonner. Et nous le faisons constamment dans notre existence. Nous passons dans notre existence de notre passé à notre présent. Mais nous avons des visions du futur, puis nous revenons. Et ce va-et-vient tout à fait normal. Eh bien, c'est de cette expérience profonde qui est toujours un va-et-vient entre ce que nous avons vécu, ce que nous vivons et ce que nous comptons vivre, c'est cela que la Bible nous raconte. Et il faut bien s'en rendre compte. Alors, dans les derniers chapitres du livre de Samuel, je les reprends à la page 66 du syllabus, vous avez les chapitres 19 à 21, qui vous raconte un certain nombre de ces légendes, mais pourquoi sont-elles racontées? Parce qu'il s'agit de deux tribus différentes. Bethléem vient de la tribu de Juda, et Éphraïm, c'est la tribu des Joséphites. Éphraïm, Benjamin, Éphraïm, Manassé, Benjamin, ce sont les Joséphites, ceux qui ont été en Égypte. Et on nous parle là, justement, de deux tribus. On nous intéresse à deux tribus particulières. La tribu de Benjamin, habitant d'Éphraïm, Manassé, et la tribu de Juda. Et justement, on a accolé au livre des juges, le livre de petit livre de Ruth. C'est une idylle, bien sûr. Je ne sais pas si Madame Ruth a existé telle qu'elle, mais je sais très bien qu'il y a des gens de Moab qui ont été incorporés dans le peuple d'Israël. Ça, oui. Et justement, Madame Ruth, qui venait de Moab, qui est une Moabite, est incorporée dans la famille d'Israël. Et justement, elle fait partie, elle devient mère porteuse pour la tribu de Juda. Et le petit livre de Ruth se termine par la généalogie de la tribu de Judas, pour aller jusqu'à David. David, tribu de Judas. Mais dans la tribu de Benjamin, qui a eu certainement à une époque une importance probablement capitale, de la tribu de Benjamin va surgir Monsieur Shaul. Shaul, Benjamin, David, Judas. Et justement de cette dispute entre les tribus va surgir une dynastie, une royauté, une monarchie en Israël. Et justement les livres de Samuel d'abord, puis le livre des rois ensuite, eh bien ces quatre livres, deux de Samuel, deux des rois, vont nous expliquer comment, après une sorte de rivalité qu'il y a eu entre la tribu de Benjamin, qui était déjà implantée, et la tribu de Juda, qui n'avait pas encore de centre, de capitale, mais qui en a pris un, comment justement, de ces deux de rivalité entre ces deux tribus, est née finalement une royauté. Une royauté qui va signifier l'unité des 12 tribus d'Israël. Voyez l'importance. Mais c'est une importance que nous pourrions dire idéologique, que nous appelons plutôt théologique, parce que cette importance, c'est de savoir comment cette présence de Dieu reconnue, que nous appelons généralement le yahvisme, comment cette religion d'Israël va petit à petit se former, s'expliciter, et comment elle va construire sa théologie. Un peuple que Dieu rassemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans notre monde d'aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui rassemble les peuples quand même. C'est une volonté de vivre ensemble. Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie? La question est encore actuelle. Qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir? Est-ce que l'union fait vraiment la force? Qu'est-ce que c'est que l'union? Qui est-ce qui nous unit? Est-ce que c'est la convention de personnes qui se rassemblent dans une démocratie? Et donc, on fait ensemble des lois qui vont régir, mais elles sont conventionnelles, bien entendu. Elles valent pour un peuple à une certaine époque. Et donc, elles pourraient être changées. Et est-ce que c'est ça, le régime des nations du monde? Ou bien est-ce que c'est Dieu qui est à l'intime de cette relation des peuples entre eux? C'est le problème, d'une part, de Babel, d'autre part, de la Pentecôte. Vous voyez, ces grands thèmes, vous les retrouvez dans la Bible. Et la Bible est ainsi construite pour nous faire réfléchir à partir d'histoires telles qu'elles sont racontées dans le livre. C'est pourquoi je souligne toujours, mais prenons la Bible comme un livre, et pas comme ce que nous imaginons quand nous le lisons. Comme un livre qui est constitué et qui va depuis A jusqu'à Z et qui a une perspective. Mais sa perspective, sur le plan chronologique, sur le plan de la géographie, c'est parfois plus sûr, mais sur le plan chronologique, c'est parfois très fantaisiste. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. C'est vrai que nous, aujourd'hui, nous aimons avoir des dates précises pour savoir ce qui s'est exactement passé. Non. Pour avoir une mémoire de ce qui a pu se passer un jour. Quand vous lisez, quand vous voulez justement vous documenter sur l'histoire de la guerre de 40-45, vous avez au moins quatre livres d'histoire importants et qui racontent parfois des choses qui n'ont pas pu se passer d'une façon et de l'autre. Est-ce que ces livres nous racontent des choses qui ne sont pas vraies? Est-ce que Eisenhower a plus de vérification qu'un autre, qu'un Russe qui écrit la même histoire? Est-ce qu'il a plus de sens historique? Mais non! Chacun raconte une histoire d'une certaine manière comme il l'aperçoit. Et c'est important, parce que le point de vue subjectif fait partie de l'histoire aussi. Alors voilà, on vous a raconté à la fin du livre des juges qu'il y avait des rivalités entre la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. On nous raconte aujourd'hui qu'il y a des difficultés ou qu'il y a des rivalités entre une théologie et une autre théologie, entre un christianisme protestant et un christianisme catholique. Et c'est vrai. Et ça fait partie de la réalité. Est-ce qu'il y en a un qui a plus raison que l'autre? C'est pas la question. La question est de savoir que cette vérité essentielle étant aussi multiple. Il y a un paradoxe. Et on vous a parlé de la tribu de Benjamin et comment elle a disparu à un certain moment de la circulation et puis on l'a reconstituée, ce qui veut dire qu'elle a survécu à des difficultés, peut-être des difficultés intérieures, et que finalement, la royauté s'est centrée après un essai benjaminite avec Shaoul, que la royauté s'est centrée sur la tribu de Juda. Et le premier de cette tribu de Juda à être roi, c'est David. David, Salomon. Mais ne vous figurez pas le royaume de David ou le royaume de Juda, ne vous figurez pas ça comme un pays. C'est une ville et quelques petits villages tout autour. C'est tout petit. Alors, qu'est-ce qui est important? C'est comment l'histoire et l'historien deutéronomiste sait bien écrire l'histoire, comment l'histoire s'est racontée et qu'est-ce qu'elle veut dire. Alors, il y a un sas, hein, un intermédiaire entre l'essai des tribus, tel l'essai d'unification, disons comme ça, des tribus, les recherches d'unification des tribus dans le livre des juges, et la royauté. Et là, il y a un personnage, de nouveau. Il faut un personnage, il faut quelqu'un qui est vraiment qui résume ce que c'est qu'un vivant de l'époque, et c'est M. Samuel. Et Samuel est un personnage pluriel. Ah oui, et il est juge, il est prophète, il est prêtre, à 16 heures. Et Samuel est décrit dans les livres, dans le début, premier livre de Samuel, il est décrit comme le passage d'une unité qui se cherche à l'unité de la monarchie. Et donc il ne faut pas s'étonner qu'il vienne dans la liste des juges, le dernier des juges en quelque sorte, qu'il soit éduqué dans un temple, c'est-à-dire qu'il ait une proximité, disons, sacerdotale avec Dieu, et qu'il soit aussi prophète. Parce que, comme je vous le dis à la page 64, trois événements marquants sont à épingler dans cette période. Les règnes de David et de Salomon, qui ont profondément marqué l'histoire d'Israël, la naissance et le développement du prophétisme important. Pourquoi un prophète et pourquoi les prophètes sont-ils accolés au roi précisément? Et justement, nous allons voir, et c'est un des buts de ces livres, de montrer qu'une monarchie seule ne marche pas. Quand un roi est tout seul, il devient très facilement tyran, parce que le pouvoir, quand on l'a, on ne veut pas le perdre. Et le roi, c'est celui qui a le pouvoir, même quand il voulait donner. Alors, il faut bien montrer la difficulté du pouvoir royal. Et finalement, on saura à la fin du deuxième livre des rois qu'en Israël, ça n'a pas marché. Le système royal n'a pas marché. Il faudra voir pourquoi. Mais ça n'a pas marché. Et troisièmement, l'apparition de la littérature biblique. Important aussi. C'est à partir de la royauté que l'on a commencé à faire des archives, à composer des archives. Oh, il y avait déjà des archives royales, Hammurabi, le code d'Hammurabi et d'autres assyro-babyloniens, hein, ont aussi des archives gravées sur pierre. Ici, ce sont des archives qui ont été conservées dans les temples. Et justement, les prêtres étaient entre autres des conservateurs archivistes. C'est-à-dire, il devait conserver la mémoire du peuple et pouvoir retourner dans les archives. Donc, apparition de la littérature biblique, ce que nous appelons l'historiographie. Pas l'histoire, mais comment on écrit l'histoire pour un peuple qui avance. Et alors, on va vous raconter Samuel, l'histoire de Samuel, et comme on avait raconté l'histoire de Moïse à partir de sa naissance, attention, intéressant, le genre littéraire hein, de l'enfance de quelqu'un. Et c'est intéressant aussi pour le Nouveau Testament. Quand on veut montrer que quelqu'un est destiné à vivre quelque chose d'important et d'essentiel, et que c'est Dieu qui le destine, on va montrer que ce qu'il est, il l'a reçu de Dieu, que ses qualités sont innées. Et donc, ça lui vient de ce qu'il est, c'est-à-dire de la présence de Dieu en lui. Et ça, évidemment, ça ne se raconte pas que Dieu est présent en chaque homme, mais ça va de soi pour Israël. Il est évident que tout être créé et qui est créé unique vient du Dieu unique. Ça ne se met pas en question, cette chose-là. L'unicité absolue de chaque être renvoie à l'unicité même de Dieu. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa masculin et féminin, il les créa pour qu'ils se reconnaissent tels comme image de Dieu l'un dans l'autre, homme et femme. Et donc on va vous raconter, comme on avait raconté l'histoire de Moïse, on va vous raconter l'histoire de l'enfance de Moïse, on va vous raconter l'histoire de l'enfance de Samuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme Moïse a été le chef désigné par Dieu, pas par les hommes, du peuple qui sera finalement Israël et les 12 tribus d'Israël, eh bien Samuel a pris la relève après Josué. Et donc on va vous donner constamment, dans le récit de cette histoire de Samuel, des Mais il faut savoir lire, évidemment, des détails qui renvoient à Moïse. Et quand on va expliciter que Jésus est vraiment celui qui sauve le monde entier, on va reprendre évidemment des détails à Moïse, des détails à Samuel, hein, etc. Pour montrer qu'il y a une continuité dans le dessein de Dieu, non seulement sur Israël, mais sur Israël comme médiateur pour le monde. Israël est peuple sacerdotal, c'est-à-dire que le sacerdoce est au service du peuple. Et tout ça a été repris, évidemment, dans notre Église. Alors, on vous raconte l'histoire du pèlerinage annuel à Silo, qui est le site du premier temple en Israël. Et avec, on vous raconte que, de nouveau, un homme a deux femmes ici, une qui s'appelle Hanna, c'est-à-dire la grâce, et l'autre qui s'appelle Penina, c'est-à-dire la perle. Et la perle a beaucoup d'enfants, et la grâce n'en a pas. Voilà. Pourquoi ? Mais parce que la stérilité humaine appelle la grâce de Dieu. Et vous avez Madame Anne, qui n'a pas d'enfant et qui se plaît, et il y a une jalousie entre les deux femmes, comme il y avait une jalousie entre Agar et Sarah. L'histoire se répète, mais selon des modalités différentes. Mais fondamentalement, c'est la même réalité, la jalousie. Comment surmonter la jalousie ? Vous voyez, c'était déjà vrai avec Ésaü et Jacob, avec Caïn et Abel, avec les frères de Joseph. La jalousie et l'idolâtrie sont les deux poisons du monde, les suscitateurs de violence. Et donc il y a Anne qui va demander, et cette belle prière d'Anne, du Cantique, chapitre 2 du premier livre de Samuel que nous connaissons tous, cette belle prière d'Anne, qui a été reprise, évidemment, dans le Magnificat. Pourquoi évidemment ? Parce que c'est le même dessein de Dieu qui se reprend chaque fois. Et on va appeler le petit enfant qui est venu parce que on l'a demandé. Shemo El, il a entendu Dieu. Et puisque Dieu a entendu, eh bien le petit enfant entendra Dieu. Et vous voyez, à partir du nom, on va reconstituer une histoire. Et puis Samuel, l'enfant, le premier-né, parce qu'il va en venir encore trois garçons et deux filles après lui, eh bien, ce petit enfant va être consacré à Dieu. Consécration du premier-né. C'était déjà vrai au chapitre 12e de l'Exode. On consacrait au Seigneur le premier-né, et on le consacre encore aujourd'hui. Parce que le premier-né, c'est vraiment la fleur de l'union d'un homme et d'une femme. Et ce premier-né est consacré au Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il est une présence de Dieu, surtout une présence de Dieu soulignée par le fait qu'il y avait une stérilité auparavant. Et donc, c'est quelque chose d'inouï, de miraculeux. Miraculeux, c'est-à-dire une question touchant la réalité profonde. C'est ça, un miracle. C'est une interpellation à un niveau de grande profondeur. De quoi s'agit-il ? Une vie qui vient alors qu'on est marié depuis déjà une dizaine d'années. Mais c'est un peu extraordinaire, c'est miraculeux, une petite merveille. Et donc voilà. Et puis on vous raconte quand même que Le prêtre qui était là, il n'était pas du tout exemplaire. Les prêtres ne sont jamais exemplaires dans la Bible. Jamais. Et les fils d'Élie, puisqu'on est père de père en fils, les fils d'Élie, ils prennent tout pour eux. Ça, c'est le danger du sacerdoce, hein, c'est de prendre tout pour soi. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le cléricalisme. Alors, eh bien, Dieu se fait entendre au petit Samuel. Et il ne sait pas ce que c'est, Dieu. Et il va le découvrir. Et puis, quand il est devenu adulte, il va se poser une grosse question. Vous voyez, l'arche de Dieu est considérée d'abord comme un talisman. L'arche, avec les tables de la loi, on le porte partout, on le dépose dans un sanctuaire, et on pense que Dieu est avec nous. Et quand on va en guerre contre un ennemi, on va prendre l'arche avec soi. C'est un bon talisman. Et il va nous assurer la victoire. Eh bien, ce n'est pas ce qui se passe. On pensait avoir la victoire parce qu'on a pris avec soi l'arche de l'Alliance, l'arche de Dieu. Eh bien, on est vaincu et manque de peau, hein. Non seulement on est vaincu, mais l'âge d'alliance passe aux Philistins. Ben, c'est grave. Comment l'âge d'alliance peut-il passer aux Philistins? Comment Dieu peut-il admettre, souffrir, que son âge, c'est-à-dire sa parole, passe dans le camp de l'ennemi? Les Philistins devenant maintenant les ennemis essentiels. Ce sont ceux qui étaient venus probablement des îles grecques, Minoennes, etc., et qui s'étaient installés sur le bord de la mer. Et qui pénétraient petit à petit dans le pays. Et qui finalement prenaient le pas aussi sur ce qui restait des anciens Cananéens, qui n'avaient pas été assimilés par les tribus d'Israël. Et il y avait toute une barrière, je vous ai montré cela sur la carte, une barrière à partir de Jébuséens qui restait encore cananéenne, jusqu'au rivage philistin, et puis au nord, il y avait une autre barrière. Et donc, le pays était encore morcelé en petites entités. Et alors, tout le problème va être justement de l'ennemi. Il y avait les Amalécites dans le désert, l'ennemi numéro 1 d'Israël, et maintenant, l'ennemi numéro 2, si vous voulez, ce sont les Philistins. Et les Philistins sont installés notamment à Gaza, Ashdod, Ashkelon, Ekron et Gath, les 5 villes philistines. Gaza a toujours fait des problèmes, hein ? Toujours. Depuis le début, et toujours aujourd'hui, Gaza est un lieu difficilement, assumable, disons comme ça, assumable par une entité plus grande. Il y a toujours une semence de révolte de ce côté-là. Et alors, on vous raconte au début les déboires de l'Arche d'Alliance. C'est-à-dire que si la présence de Dieu, vous la mettez dans un objet, fût-ce la parole de Dieu, vous en faites une idolâtrie. Et donc il faut réfléchir sur ce qu'est la présence de Dieu. Est-ce que la présence de Dieu, fût-ce sa parole, est dans un objet ? Ou bien est-ce qu'elle est dans les hommes et dans la recherche que les hommes font de cette vérité intérieure? C'est la même chose pour ce livre. Hein. Vous pouvez faire de la Bible une idolâtrie. Mais où est-elle vivante, la parole de Dieu, sinon dans les hommes? Eh bien, c'est ce qui nous est raconté dans le livre à travers une histoire qui est bien conçu, Et figurez-vous que quand l'Arche d'Alliance est prise par les Philistins, ça ne marche plus chez les Philistins, hein? Parce que tout le monde est couvert de pustules, de tumeurs, on ne sait pas si c'est la peste provoquée par les rats, on ne sait pas très bien. Mais ça ne va pas, hein? C'est-à-dire qu'il y a une incompatibilité entre l'idolâtrie et la véritable présence de Dieu. Et c'est tout ça qui nous est raconté dans cette histoire. Et finalement, les Philistins en ont assez et ils renvoient l'arche. Ils renvoient l'arche en Israël. Parce qu'ils voient bien que ça ne leur occasionne que des problèmes. Et Samuel, je suis déjà au chapitre 7e, depuis le jour où l'arche fut installée à Kiriath Yearim, qui existe encore aujourd'hui, au-dessus d'Abou Gosh, du village d'Abou Gosh, hein, Kiriath Yearim, c'est-à-dire la ville des forêts, fut installée à Kiriath Yearim, un long temps s'écoula, 20 ans, et toute la maison d'Israël soupira après le Seigneur. On a l'arche, mais on n'a pas nécessairement la présence du Seigneur quand on n'a que l'arche, quand on n'a que l'extériorité, quand on n'a que le culte sans âme. Alors Samuel parla ainsi à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez au Seigneur, je suis au début du chapitre 7, écartez les dieux étrangers du milieu de vous. » C'est un mélange que vous vivez. Vous vivez de l'idolâtrie mélangée au vrai Dieu. Et les Astartés, hein, les déesses, fixez votre cœur dans le Seigneur et ne servez que lui. Alors, il vous délivrera de la main des Philistins. C'est par votre prestance intérieure, par votre piété personnelle, que vous allez dominer les Philistins, et pas par la guerre. Les Israélites écartèrent donc les Baals et les Astartés et ne servirent que le Seigneur. Il faut toujours revenir à ça, à une pureté intérieure. Et alors Samuel dit, rassemblez tout Israël à Mitzpah, qui est au nord de la tribu de Benjamin, et je supplierai le Seigneur pour vous. Ils se rassemblèrent donc à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau qu'ils répandirent devant le Seigneur, ils jeûnèrent ce jour-là et ils dirent, nous avons péché contre le Seigneur. Et Samuel jugea les Israélites à Mitzpah. Qu'est-ce que ça veut dire, il jugea les Israélites? Il leur fit prendre conscience, il les conscientisait, comme aujourd'hui, sur cette présence de Dieu. Revenez à cette intériorité. Et alors, chapitre 8e, très important, lorsque Samuel fut devenu vieux, il établit ses fils comme juges en Israël, hein, toujours père en fils. Et alors, son fils aîné s'appelait Yoël, le Seigneur est Dieu, et son cadet Abia, Yahvé est mon père. Ils étaient juges à Beersheba. Mais ses fils ne suivirent pas son exemple, ils furent attirés par le gain, acceptèrent des présents et firent fléchir le droit. C'est toujours la question. Tous les anciens d'Israël se réunirent, vinrent trouver Samuel à Rama. Vous voyez, le sacerdoce qui veut prendre les choses pour lui, au lieu de les laisser au Seigneur, au lieu de s'effacer devant le Seigneur, ça ne marche pas. Et dans la Bible, c'est constant, ça. Ils lui dirent, tu es devenu vieux, et tes fils ne suivent pas ton exemple. Hein, fais attention, il faut songer à la suite. Hein. Eh bien, établis-nous un roi pour qu'il nous juge comme toutes les nations. Voilà le problème. Comme toutes les nations. Cela déplut à Samuel qu'ils aient dit, donne-nous un roi pour qu'il nous juge. Et il invoqua le Seigneur. Parce que le seul roi, évidemment, c'est le Seigneur. Mais attention, même quand le seul roi, c'est le Seigneur, est-ce que c'est bien lui qu'on laisse régner, ou bien est-ce qu'on se met à sa place ? Toujours le gros problème du pouvoir. Et alors, le Seigneur dit à Samuel, satisfait à tout ce que te dit le peuple. Attendez un peu. Satisfait à tout ce que dit le peuple, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté, ne voulant plus que je règne sur eux. Parce que le royaume de Dieu est intérieur. Et on voudrait bien toujours un signe extérieur, un veau d'or. Ce veau d'or fut-il le roi. Tout ce qu'ils m'ont fait depuis le jour où je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à maintenant, ils m'ont abandonné, ils ont servi des dieux étrangers, ils te le font aussi. Eh bien, satisfait à leur demande. Seulement, tu les avertiras solennellement, tu leur apprendras le droit du roi qui va régner sur eux. Attention. Le pouvoir, c'est très bien, mais le pouvoir qui est une domination, ça ne va plus. Le pouvoir ne peut être qu'un service. Et alors, il va leur donner les inconvénients de la royauté. Et on voit très bien que dans ce chapitre 8e, il souffle le chaud puis le froid. Il y a évidemment les monarchistes et il y a les anti-monarchistes. Et il parle pour les uns et pour les autres. Ah, vous voulez un roi ? Attention, vous allez savoir ce que c'est qu'avoir un roi. Un roi, c'est toujours un tyran en germe. Samuel répéta toutes les paroles du Seigneur au peuple qui lui demandait un roi. Il dit : voici le droit du roi qui va régner sur vous. Il faut bien savoir à quoi vous vous engagez. Et alors, moi je vous renvoie aussi au chapitre 17e du Deutéronome, qui a été composé beaucoup après, évidemment, et qui parle justement de cette loi du roi. Est-ce que le roi est vraiment au service de ses sujets ? Le roi est celui qui peut se mettre en dessous du plus petit de ses sujets. Il dit, voici le droit du roi qui va régner sur vous. Il prendra vos fils et les affectera à sa charrerie et à ses chevaux. Il lui faut une armée. Si vous voulez un roi, il faut qu'il ait une armée. Et ils courront devant son char. Il les emploiera comme chef de 1000, comme chef de 50, leur fera labourer son labour, moissonner sa moisson, fabriquer ses armes de guerre et les harnais de ses chars. Il prendra vos filles comme parfumeuses, cuisinières, boulangères. Il prendra vos champs, vos vignes, vos oliveraies, les meilleures. Et il les donnera à ses officiers. Ah oui, on fait des subsides, des gratifications. On sait bien comment on règne. Sur vos cultures et vos vignes, il prélèvera la dîme, la donnera à ses eunuques et à ses officiers. Les meilleurs de vos serviteurs, de vos servantes et de vos bœufs et de vos ânes, il les prendra, il les fera travailler pour lui. Il prélèvera la dîme sur vos troupeaux et vous-même deviendrez ses esclaves. Ce jour-là, vous pousserez des cris à cause du roi que vous vous serez choisi. Mais le Seigneur ne vous répondra pas ce jour-là, puisque vous avez voulu choisir un roi, je vous laisse. Le peuple refusa d'écouter Samuel et dit, non, nous aurons un roi et nous serons nous aussi comme toutes les nations. Notre roi nous jugera. Il sortira à notre tête et combattra nos combats. Samuel entendit toutes les paroles du peuple et les redit à l'oreille du Seigneur. Mais le Seigneur lui dit, satisfait à leur demande et intronise-leur un roi. Alors Samuel dit aux hommes d'Israël, retournez chacun dans sa ville. puis on vous raconte l'histoire de Shaoul, fils de Kish. Shaoul qui veut dire l'interpeller, hein, le mis en question, questionner. Shaoul, fils de Kish. Et ça commence par, on recherche les ânes du papa, hein, qui se sont perdus. Et voilà que Shaoul, un homme formidable, dépassant tout le monde par sa grandeur, hein, une épaule au-dessus de tous les hommes, et voilà que Shaoul va chercher ses ânes. Et en allant chercher ses ânes, il rencontre Samuel. Samuel, hein, sur le haut lieu. Et Samuel va lui donner l'onction royale, car le Seigneur lui a dit, allez, tu peux essayer avec celui-là. Peut-être bien que ça marchera. Mais c'est un benjaministe. Et Paul, hein, qui est aussi de la tribu de Benjamin, va toujours, hein, se référer à Shaoul. Vous voyez, les lignes de fait qui reviennent, les trajectoires. Et alors, on vous raconte l'histoire de Shaoul qui rencontre Samuel, et puis voilà que Shaoul a un succès militaire, et il est plébiscité comme roi. D'abord, il a été choisi par Dieu, et Samuel va faire fonction de prophète. Le prophète va être l'instance critique accolée au roi pour le maintenir dans le droit chemin de l'alliance. Et voyez pourquoi le prophète va être important dans la royauté. C'est pour être tout le temps critique du gouvernement. Sinon, le roi va devenir le tyran. C'est ce qui s'est passé toujours dans le Proche-Orient ancien, ça continue de se passer. Et finalement, Shaoul étant devenu roi, au chapitre 12e du premier livre de Samuel, Samuel se retire devant Shaoul. Les juges, dernier juge Samuel, on vous raconte l'histoire comme une histoire de Moïse, et puis... hein, un discernement à opérer. Vous voulez un roi, vous aurez un roi, mais attention, si vous voulez un roi, il vous faut un prophète pour vous maintenir dans le droit fil de l'expérience du Seigneur. Et puis Shaoul étant devenu roi, va commencer justement, hein, le prophétisme accolé à la royauté. Le prophétisme n'est pas une institution. Le sacerdoce et la royauté sont des institutions. Le prophète, il est choisi par Dieu. Il n'est pas de l'ordre d'une institution qui se développe par elle-même. Dieu est toujours à la naissance, c'est-à-dire, hein, est toujours comme une instance critique de la réalité du pouvoir. Voilà. Nous arrêtons ici et nous verrons la fois prochaine comment cette histoire de Shaoul va donner naissance à une royauté avec David et puis Salomon. Merci.